Vincent Guenzi, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes stratégiste chez Cholet-Dupont. On va parler avec vous de marché et de perspectives hein, sur ces marchés financiers avec, je dirais, comme un peu pour tous mes invités, la même question du moment. Finalement, on a vu cette progression des marchés aux États-Unis, on a vu ces indices hein, au plus haut aux États-Unis. Alors, on parle peut-être un peu plus de reprise aux États-Unis que dans la zone euro. Dans la zone euro, on avait l'impression vraiment qu'il y avait une différence entre ce que reflétait la bourse et cette zone euro en récession, comme on vient de le constater. Comment on analyse un petit peu ce qui se passe en ce moment? Il y a un flux vers les actions, il y a une obligation d'aller vers les actions.
J'ai plus besoin de répondre. Il y a effectivement une dichotomie entre la situation économique en Europe et les évolutions des actions européennes. Maintenant, personne n'a oublié que les grandes sociétés européennes maintenant sont très internationalisées et qu'elles ont également fait des efforts de restructuration pour redresser leur rentabilité. Elles sont probablement un peu plus à l'aise dans les phases troublées que l'on a en Europe qu'il y a quelques années. Mais c'est surtout leur exposition internationale qui les protège. Donc il y a de la croissance du chiffre d'affaires, il y a de la croissance du résultat. Et donc ce n'est pas la récession européenne qui bloque les entreprises européennes et l'évolution des actions. Ce qui fait par contre progresser les actions, c'est tout simplement l'appétit, le prix que l'on accorde aux actions ou les PER. Et là, c'est à la fois. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait qu'en zone euro, je crois que progressivement, tout le monde se rend compte que les grands risques sont derrière nous. Hein, on parle encore de la Slovénie, il y aura peut-être ultérieurement encore une restructuration de la dette grecque ou éventuellement encore un peu de rééchelonnement sur le Portugal, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on n'est plus dans l'inconnu et que les choses sont mieux maîtrisées. Pas totalement. Ça patine encore un petit peu sur le plan de l'union bancaire. On voit bien que les Européens ont du mal à se mettre d'accord pour arriver à un accord qui satisfasse toutes les parties. Mais globalement, cette aversion au risque diminue. Donc, s'il y a moins d'aversion au risque, on est prêt à payer plus cher les actions. Premier point. Deuxième point, vous l'avez dit, comme les taux d'intérêt sont très très bas partout, partout, partout dans le monde et sur toutes les échéances, en tout cas jusqu'à 10 ans de durée, il y a un recours naturel vers les actions. Je pense que la hausse va plus vite que le flux réel qu'il y a vers les actions.
Oui, bah,
C'est
effectivement.
plutôt de la valorisation qui monte plutôt que des flux réels. Il y en a, mais pas suffisamment pour expliquer tout seul la hausse du marché. C'est quand même la prime de risque qui diminue, les PER qui augmentent.
Oui, ce qu'on pourrait dire qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs, notamment institutionnels, qui attendent, qui
Bien
quelque
sûr.
part, pour l'instant, ne se sont pas positionnés sur ces marchés
Bien
actionnaires.
sûr. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Quand ils viennent se positionner, ils ne viennent pas se positionner sur les titres les plus dangereux ou les plus cycliques. Ils viennent plutôt se positionner sur les grandes valeurs qui ont déjà un bon track record, mais qui viennent de sous-performer le marché ou qui ont eu un petit accident de parcours.
Alors, on a parlé de ces zones, on a parlé des États-Unis, de la zone euro. Il y a aussi un driver du marché, hein, comme on dit, c'est ce qui se passe bien sûr sur l'économie chinoise. Là, il y a, on pourrait dire, des informations contradictoires. On se demande si, il y a même à nouveau des investisseurs qui se disent, est-ce qu'il va pas y avoir un hard landing en Chine, donc un atterrissement brutal en Chine, ce qui n'est pas le scénario majoritaire, mais est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas de nouveaux risques finalement avec ces ralentissements qui ont eu lieu, je dirais, dans d'autres
Non,
zones?
c'est pas mon scénario. Et je crois que le marché, globalement, se rend bien compte que la phase de très forte croissance de la Chine, qui dépassait régulièrement 10%, est derrière nous. La Chine est devenue un pays plutôt émergé, et donc il est normal que son taux structurel de croissance ralentisse. Que l'on ait pour les prochaines années une croissance de 7 à 8%, ce serait déjà très très bien. Et je ne pense pas que ça inquiétera très longtemps les marchés. Par contre, ça peut effectivement avoir un impact sur quelques sociétés qui sont, enfin, dont le chiffre d'affaires réalisé en Chine est très important et qui peuvent peut-être connaître, par rapport à ce qu'elles ont connu, un petit ralentissement de l'activité. On s'est posé des questions sur les valeurs de luxe il y a quelques semaines et quelques mois. Les valeurs automobiles allemandes sont peut-être également un peu plus sensibles à un éventuel ralentissement de la croissance, pas une récession ou un hard landing, mais simplement une croissance qui se modère un petit peu.
Alors, on a vu hein, et sur les matières premières aussi des interrogations et on pourrait dire qu'on a deux marchés. On a ce qui se passe sur les marchés actions, effectivement, on l'a rappelé avec ces indices, notamment aux États-Unis les plus hauts. Et puis sur les matières premières, les métaux non ferreux, par exemple, on voit que là, il y a moins de demande, les prix sont plus bas. Donc on se dit, effectivement, ça veut dire quand même qu'il y a deux visions quelque part du futur.
Pas
Avec,
forcément.
ouais.
C'est peut-être qu'une seule vision et c'est peut-être un renversement tout simplement des anticipations qu'on avait ces dernières années. Rappelez-vous, depuis 2003, le bull market des matières premières qui commence, au départ lié à des fondamentaux, c'est-à-dire une forte croissance des pays émergents qui sont les plus gros consommateurs maintenant de matières premières, avec un retard d'équipement et d'investissement dans le secteur, ce qui fait que il fallait bien remettre des mines en état et investir. Ça dure jusqu'en 2007-2008. Et au moment où la crise arrive, le marché se réfugie un petit peu sur ce comportement en se disant finalement c'est un peu sans risque parce que c'est lié aux pays émergents qui ne ralentissent pas. Et deuxièmement, si les banques centrales continuent à baisser les taux et à créer de la monnaie, ça va générer de l'inflation. 3 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il n'y a pas eu de création d'inflation, que les banques centrales continuent à alimenter les marchés en liquidité, que les pays émergents croissent moins vite, que l'offre et la demande sur les matières premières et même sur le pétrole sont en train de se rééquilibrer, et que ce ne sont plus des valeurs refuges. Donc effectivement, il y a peut-être aussi de la rotation en dehors de ce secteur vers les actions notamment.
Alors, un marché qui a fait l'actualité sur les dernières semaines, derniers mois, c'est bien sûr le marché japonais, avec ce qui s'est passé et la politique de la banque centrale et ces marchés actions japonais. Alors, ça faisait longtemps pour les investisseurs patients, ça faisait longtemps que sur les actions japonaises, on n'avait pas eu un tel phénomène en quelques mois finalement. On en est où aujourd'hui justement? Est-ce que, vu la hausse, effectivement, vous êtes prudent? Quel est un peu le regard que vous avez?
Je crois que déjà, il ne faut pas regretter de ne pas avoir eu d'actions japonaises pendant ces 10 dernières années, et acheter un marché au plus bas, tout le monde sait bien que c'est extrêmement difficile. Donc, je crois que la hausse s'est faite dans le scepticisme. Un peu comme quand il y a eu le premier QE1 aux États-Unis, puis le QE2, les marchés ont mis du temps à embrayer. Pourquoi? Parce qu'il fallait le temps d'analyser les raisons de ce bouleversement japonais. Et je crois que maintenant, comme toujours, avec le travail des analystes et des économistes, on comprend un petit peu mieux. Je crois que les Japonais n'avaient plus le choix. Il était obligé d'organiser cette baisse du yen et de stimuler d'une manière ou d'une autre, de manière beaucoup plus importante que par le passé, leur économie. Donc ça, les marchés actions ont réagi très vite. Ils ont surtout réagi à la baisse du yen. Et on a vu dans les résultats des entreprises japonaises que ça a fait un impact très très rapide. Ça n'a pas encore eu un gros impact sur l'économie. Quand on regarde les indicateurs avancés japonais, ils commencent à se redresser, mais ce n'est pas énorme. Et là, le marché est sceptique parce qu'il se dit, bon, après la hausse, est-ce qu'il faut y aller? C'est toujours un petit peu délicat de répondre à ce genre de questions. Je pense que moi, ce qui me rend un peu plus confiant maintenant sur le marché japonais que je ne l'étais jusqu'à présent, c'est que je crois que c'est une première étape de réforme qui s'est mise en place. On a organisé la baisse du yen et des achats d'actifs très importants par la Banque centrale, et que les effets vont être durables, et que progressivement, on peut avoir, comme aux États-Unis, un impact de retour de la confiance et de redressement progressif de l'économie japonaise. Et donc, je ne sais pas s'il faut acheter maintenant, mais je crois qu'il est légitime de se dire, chaque fois que ça baisse un peu sur le Japon, tiens, j'en avais pas, j'en achète un petit peu.
En conclusion, on est au mois de mai. On pense déjà en termes d'investissement à ce qui va peut-être se passer cet été. Forcément, quand on investit sur les actions, quelles sont aujourd'hui je dirais, les principales stratégies mises en avant?
La stratégie moyen terme, c'est toujours les actions. Je crois que les actions vont continuer à faire un meilleur parcours que les obligations pour les prochaines années. On aura bien entendu des pics de correction. Il y a un petit peu d'euphorie sur le marché, pas de la part des particuliers, mais un peu de la part des institutionnels, entre guillemets, ou des professionnels. Donc, qu'il y ait des corrections de 3, 4, 5% sur le marché, c'est la loi du genre. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Ce que je regarde plutôt pour voir s'il faut que je revoie à la hausse les objectifs que j'avais sur les actions, parce qu'on y est quasiment, 4100 sur le CAC, on n'en est pas très loin, 1600 sur le S&P, on y est, c'est de voir si la valorisation des actions se fait en accompagnement de la hausse des taux. Je vous explique très rapidement, la prime de risque diminue. Cette prime de risque, elle diminue parce qu'il y a un peu moins d'aversion au risque, mais également parce que la confiance dans l'économie à l'avenir se redresse et que le marché croit davantage aux perspectives que la croissance américaine va rester à 2%, que la croissance européenne va redémarrer tout doucement en 2014. Et donc ça s'accompagne aussi d'anticipation de remontée des taux longs. Si le marché monte alors que les taux longs remontent, ça veut dire que finalement on a encore plus confiance dans l'économie et ça justifie d'avoir des PE un peu plus élevés. Si les marchés continuaient à monter alors que les taux longs ne montaient pas aux États-Unis, là ce serait un signe de spéculation et il faudrait se méfier un petit peu.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Vincent Genzi. Donc on rappelle que vous êtes stratégiste chez Cholet Dupont.
Merci.